Territoire d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoire d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoire d'Info, votre bulletin de nouvelles francophones pour savoir ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest et un peu partout dans le Grand Nord canadien. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. L'administration de Caroline Cochrane entame une série de rencontres intergouvernementales avec les leaders des gouvernements autochtones. J'en ai discuté avec le président de la Nation des Métis des TNO, Gary Bailey. Le GTNO adoptait l'été dernier un nouveau règlement entourant l'inscription des élèves au programme d'éducation en français langue première. Encore faut-il que les parents connaissent ces règles. La commission scolaire s'y affaire présentement. Le conseil municipal de Yellowknife a voté cette semaine et a maintenant un plan à proposer aux résidents pour leur nouveau centre aquatique. La 40e édition du festival Folk on the Rock aura lieu à l'été 2021 et selon les organisateurs, ce ne sera pas virtuel. L'administration du nouveau président des États-Unis, Joe Biden, impose un moratoire sur l'exploration pétrolière dans le refuge arctique. Ma collègue Nelly Guidici nous en parle. Une adaptation virtuelle de la pièce de théâtre Jacinthe sera présentée le 19 février au NAC à Yellowknife. Mon collègue Denis Laure en a discuté avec l'une des actrices et auteurs de la pièce, Nathalie Labossière. Et finalement, vous l'aurez sans doute remarqué, l'émission Bonjour là, animée par mon collègue Baptiste Foisy sur les ondes de Radio Taïga, a subitement pris fin cette semaine. Je l'ai invité à venir nous en parler. L'administration de Caroline Cochrane a entrepris en janvier une série de réunions intergouvernementales avec les leaders des gouvernements autochtones. Jusqu'à maintenant, au moins trois réunions ont eu lieu avec la Nation des Métis des TNO, le Conseil tribal des Gwich'in et la SATU Secretariat. Le gouvernement de Caroline Cochrane a inclus le resserrement des liens avec les gouvernements autochtones comme l'une des priorités de la 19e Assemblée législative.
We met with the GWT for a full day on January 12th.
Gary Bailey, président de la Nation des Métis des TNO, en témoigne. Le 12 janvier, son gouvernement a obtenu une réunion virtuelle d'une journée complète avec le conseil exécutif du GTNO. Avec les derniers gouvernements, dit-il, nous étions chanceux si nous avions 3 heures une fois par année. Les protocoles d'entente avec les administrations autochtones participantes engagent le GTNO à une rencontre annuelle au minimum. Mais M. Bailey aurait eu l'engagement de la première ministre que les communications seraient plus fréquentes et que la Nation des Métis des TNO serait davantage engagée dans l'avancement des dossiers prioritaires. La création d'un forum multilatéral du Conseil des dirigeants des TNO donnera, comme l'explique M. Bailey, le temps de faire avancer leurs dossiers prioritaires et ce, avant le règlement des revendications territoriales. La Nation des Métis des TNO s'attend aussi à jouer un rôle actif dans les décisions qui les concernent et de mettre leur position de l'avant, notamment dans le dossier de la transformation du Collège Aurora en université polytechnique, comme l'a souligné Gary Bailey.
The premier has made it clear that we're definitely going to be having our say into what goes on.
La première ministre a été très claire, souligne M. Bailey. Elle nous a assuré que nous aurions notre mot à dire. Pour l'instant, la Nation des Métis des TNO se fie à la bonne foi du gouvernement des territoires du Nord-Ouest après une année centrée principalement autour de la pandémie qui aura limité les initiatives, selon ce qu'en comprend M. Bailey.
And speaking of the last year, have you seen a difference? Have you seen more involvement?
Well, it's hard to say right now because COVID has really taken effect, a toll on everything and, you know, slowed a lot of stuff down. It's fine to meet with us, you know, but you got to get results out of those meetings and we haven't gotten any results yet. So I think I'll just wait to praise them and I'll praise them at the right time.
La COVID-19 a monopolisé bien des choses, concède-t-il. Nous apprécions nos dernières rencontres avec le GTNO, mais n'en avons pas encore vu les résultats. Nous aurons besoin de voir des résultats concrets avant de vanter les mérites de ce gouvernement. À l'heure actuelle, le président de la Nation des Métis des TNO fonde de grands espoirs pour l'année 2021, en ce qui a trait notamment à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
I think they're willing to go the full nine yards and work our government-to-government relationship and support one another in trying to come up with a final agreement along with the federal government. I think we have the GNWT support in that as well.
Je crois que le GTNO est prêt à s'engager à 100%, indique M. Bailey, et à travailler en collaboration avec les gouvernements autochtones afin d'aboutir à une entente avec le gouvernement fédéral. Les groupes prioritaires ont été vaccinés plus rapidement que prévu contre la COVID-19 au territoire du Nord-Ouest. C'est ce qu'a annoncé la docteure Camille Candola, administratrice en chef de la santé publique, lors d'un point de presse le 27 janvier. Les 33 collectivités classées prioritaires ont reçu le vaccin comme prévu. Par ailleurs, le gouvernement des TNO ne semble pas inquiet des restrictions sur l'exportation de vaccins d'Europe. L'enjeu de l'approvisionnement en vaccins contre la COVID-19 a pourtant monopolisé mercredi la période de questions à la Chambre des communes, alors que le Canada n'avait pas reçu de nouvelles doses cette semaine. Du côté de Fort Liard, il semble que tout se soit stabilisé depuis vendredi dernier. Aucun autre cas n'a été enregistré. La docteure Candola s'est dite optimiste. Elle ne croit pas devoir prolonger les mesures de confinement mises en place le 16 janvier. Celles-ci expireront le 30 janvier à 22 heures. Ces informations ont été recueillies par la journaliste de l'Aquilon, Marie-Soleil Desautels. Dans les prochaines semaines, vous risquez de voir ou d'entendre des publicités qui expliquent les nouvelles règles d'inscription des élèves au programme d'éducation en français langue première des territoires du Nord-Ouest. La commission scolaire francophone des TNO veut s'assurer que le nouveau règlement, qui a été adopté fin août, soit bien compris en vue de la prochaine rentrée scolaire. Ma collègue Marie-Soleil Desautels est avec nous pour nous en parler. Bonjour Marie-Soleil.
Bonjour.
Marie-Soleil, pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, la commission scolaire fait une campagne de promotion pour 2021-2022, nous a expliqué sa directrice générale Yvonne Karine lors d'un entretien téléphonique. Ils ont passé des annonces dans les journaux, il y en aura à la radio, ils vont distribuer des trousses d'informations dans des commerces, des garderies, etc. Ils ont aussi prévu deux séances d'information en février, l'une à l'école Alain Saint-Cyr de Yellowknife et l'autre à l'école Boréal de Hay River. C'est que le nouveau règlement adopté en août ouvre des critères aux familles dites non ayant droit. Il est ainsi désormais possible de remonter à un arrière-grand-parent plutôt qu'à un grand-parent pour restituer le droit à un élève d'étudier en français. Aussi, si un parent est francophile et réussit un test particulier, l'enfant pourrait être admis à l'école. Trois enfants ont, depuis le mois d'août, été admis conformément au nouveau règlement, deux grâce à leur arrière-grand-parent et l'autre grâce à un parent francophile. On écoute Yvonne Karine nous parler du test que doivent passer les parents francophiles pour espérer voir leurs enfants admis.
Alors, il y a deux composantes. Une des composantes, c'est des questions qu'on pose aux parents quant à leur compréhension de la différence entre, le mandat d'une école anglophone ou d'une école anglophone avec un programme d'immersion et le mandat d'une école francophone. Il y a aussi des questions qui touchent à l'engagement des familles, mais c'est tout au long du test, dans les discussions, qu'on évalue la qualité de la langue.
C'était Yvonne Karine, directrice générale de la CSF-TNO. Et Marie-Soleil, comment la qualité de la langue sera évaluée?
C'est divisé en trois catégories, débutants, intermédiaires et avancés. Puis seuls les parents de niveau intermédiaire et avancé pourront espérer voir leur enfant admis à l'école.
Et Marie-Soleil, il va y avoir également des quotas d'admission sur certaines catégories de non-ayants droit.
Oui, effectivement. Le nouveau règlement limite le nombre de non-ayants droit dans deux catégories, celle de francophiles et nouveaux arrivants. Le nouveau règlement limite le nombre de non-ayants droit des catégories francophiles et nouveaux arrivants admis dans les écoles francophones. Un nouvel arrivant est défini comme un élève éventuel qui a immigré au Canada, qui n'est pas citoyen canadien et dont les parents ont une langue maternelle autre que l'anglais. Il y a deux seuils. L'un est fixé à 10% de la population étudiante de l'école et l'autre est fixé à 85% de sa capacité. Et ces deux seuils-là restreignent les admissions. Il faut aussi savoir que les enfants admis sont comptabilisés dans les seuils durant toute la durée de leur parcours scolaire. On écoute le ministre de l'Éducation, R.G. Simpson, nous expliquer pourquoi ces quotas existent.
Those limits are there to ensure that there are spaces for French first language speakers in the school and that the majority of speakers are French first language and that in order to keep the you know, the level of the language high in the schools.
Le ministre de l'Éducation des territoires du Nord-Ouest, R.J. Simpson, qui explique que ces quotas existent pour s'assurer qu'il y a de la place pour les enfants dont la langue maternelle est le français et pour conserver un excellent niveau de français à l'école. Bref, l'objectif des quotas, c'est de ne pas inonder les écoles de non-francophones. Donc, c'est l'explication que donne R.J. Simpson. On vous invite, auditrices, auditeurs, à lire l'article complet de Marie-Soleil Desautels dans la prochaine édition du journal L'Aquilon. Marie-Soleil, merci beaucoup.
Merci, je vous en prie.
Une piscine de 25 mètres et 8 couloirs, un bassin de détente et surtout une grande glissade d'eau du calibre d'un parc d'attractions aquatiques. Voilà l'allure du centre aquatique qui sera proposé aux résidents de Yellowknife. Le conseil municipal a voté à l'unanimité le 25 janvier pour inclure ces paramètres à ce projet d'envergure présentement estimé à 53 millions. La décision finale appartient toutefois aux résidents. Le projet doit obligatoirement être soumis à un référendum auprès de la population avant d'aller officiellement de l'avant. Décision de dernière minute, les conseillers ont mis le paquet en optant pour la plus grande glissade d'eau proposée, ce qui ajoute environ 1,4 million de dollars à la facture. L'administration municipale avait d'abord recommandé au conseil d'inclure une petite glissade d'eau en indiquant qu'une grande glissade risque de ne générer qu'un engouement éphémère auprès des usagers et ne pas en valoir l'investissement. Toutefois, des rétroactions obtenues récemment auprès des municipalités de Hay River, de Fort Smith, de Whitehorse et d'Iqaluit, qui ont toutes décidé d'acquérir une grande glissade d'eau, démontrent que l'attraction y est encore très populaire auprès des résidents. Après une année sabbatique imposée par la pandémie, les organisateurs ont récemment confirmé la tenue de la 40e édition du festival Folk on the Rock pour 2021. Malgré les restrictions actuelles en matière de rassemblement extérieur et la fermeture des frontières du territoire aux non-résidents, la directrice générale et artistique de l'événement, Carly McFadden, se montre optimiste quant à la suite des choses. Si bien que toutes les soumissions d'artistes, peu importe leur lieu de résidence, sont présentement acceptées. La possibilité de représentation musicale virtuelle n'est pas explorée à l'heure actuelle. Le festival serait présentement en pourparlers avec les autorités sanitaires pour savoir comment organiser, en toute sécurité, un plus grand rassemblement. L'organisation fonderait aussi de grands espoirs quant au déploiement du vaccin à travers le territoire. Ces informations sont tirées d'un article de la journaliste Karine Lavoie de l'Initiative du journalisme local. Le 20 janvier dernier, le président des États-Unis, Joe Biden, et sa nouvelle administration ont mis en place un moratoire temporaire dans le refuge arctique. Ma collègue Nelly Guidici de la plateforme Zone Arctique est au bout du fil pour nous donner les détails. Bonjour Nelly.
Bonjour Thomas.
Donc Nelly, une nouvelle qui donne espoir, on peut se l'imaginer, à plusieurs groupes qui s'opposent à l'exploitation pétrolière dans le refuge arctique. Ce moratoire, qu'est-ce qu'il implique exactement?
Alors, un moratoire, ça signifie simplement une suspension de toutes les activités qui avaient été mises en place par la précédente administration de Donald Trump. La suspension va se faire pendant 60 jours. Et il faut savoir que la veille, que le 6 janvier dernier, une vente virtuelle des baux, en fait, avait été organisée par l'administration Trump. Donc, c'est l'État de l'Alaska, en majorité, qui avait fait la plupart des propositions par l'intermédiaire de sa société publique, appelée l'Autorité de développement industriel et d'exportation de l'Alaska. Donc aujourd'hui, le moratoire qui est mis en place implique des discussions, de nombreuses discussions entre le gouverneur de l'Alaska, les sénateurs représentant l'Alaska à Washington, ainsi que la nouvelle administration de Joe Biden. Je vous laisse écouter ce qu'ont dit Amy Lauren Lovecraft, directrice du Centre d'études des politiques arctiques à l'Université d'Alaska à Fairbanks.
So there's probably going to now be a lot of calling, you know, back and forth between the Dunleavy governorship and the administration and the state and, you know, our congressional delegation, our senators and representative and the president's office. There's going to be a lot of conversation.
Amy Lauren Lovecraft de l'Université de l'Alaska explique qu'à ce point-ci, on entame un processus de discussion et de relance entre les trois parties impliquées dans les décisions, c'est-à-dire le gouverneur de l'Alaska, les sénateurs au Congrès qui représentent l'État de l'Alaska et le bureau du président Biden. Sinon, Nelly, comment ont réagi le peuple Gwich'in, mais également l'État de l'Alaska? Comment est-ce qu'ils ont accueilli ce moratoire dans le refuge arctique?
Alors, du côté du peuple Gwich'in, il y a eu énormément de soulagement, puisque c'est une bataille qui a commencé il y a plus de 30 ans. Le chef de la Première Nation de Wuntut Gwich'in, dans le nord du territoire du Yukon, a indiqué que cette prise de position, selon lui, est la manifestation d'un soutien envers son peuple de la part du nouveau président. Il précise cependant, dans un communiqué de presse du 20 janvier, qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et pour lui, le travail continuera tant que le refuge arctique n'est pas protégé de façon permanente. Par contre, du côté de l'État de l'Alaska, il y a pas mal d'inquiétudes. L'État de l'Alaska est plutôt intéressé à continuer le développement et l'exploration pétrolière dans son pays. Dan Sullivan, qui est sénateur représentant de l'Alaska à Washington, a indiqué qu'il était inquiet. Donc lui, il est prêt à travailler avec la nouvelle administration, mais il espère que la nouvelle administration du président Biden ne va pas clore et fermer toutes les explorations, parce que pour lui, c'est une source de revenus et ça permet aux familles de vivre décemment. Donc à l'heure actuelle, il va falloir attendre la fin du moratoire, c'est-à-dire attendre la fin des 60 jours, pour savoir quelle décision sera prise dans ce dossier.
Donc on souffle un peu, si je comprends bien, là, après le départ de l'ancienne administration Trump, mais tous les enjeux, toutes les préoccupations pour le refuge arctique ne sont pas entièrement balayés, Nelly.
Non, c'est ça. C'est juste une pause dans le processus. Le moratoire implique des discussions, ce qui fait que tout peut être relancé, tout peut être arrêté. Il n'y a pas pour le moment de signes distinctifs qui permettent de dire que telle ou telle position va être prise pour le refuge arctique. Le travail doit continuer de se faire et surtout le peuple Gwich'in doit continuer de faire entendre ses griefs pour qu'ils atteignent leur objectif, c'est-à-dire une protection permanente du refuge arctique.
À suivre, donc, évidemment, on en est vraiment au tout début de cette nouvelle administration démocrate. Nelly Guédessi de la plateforme Zone Arctique, merci beaucoup.
Merci Thomas.
La comédienne ténoise Nathalie Labossière interprète une enseignante retraitée dans Jacinthe. C'est une pièce de théâtre humoristique adaptée pour l'écran. Pour nous parler de culture cette semaine, j'ai avec moi Denis Laure. Bonjour Denis.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Denis, ici le collectif Lipstick Rouge nous propose une suite de monologues qui sont axés sur différents thèmes comme l'amour, le travail et les enfants. Les trois comédiennes, c'est Nathalie Labossière, Carole Frenette-Gagné et Mariette Kerouac, interprètent leur personnage, Jacinthe, à différents moments de sa vie. Comment est-ce que c'est né cette idée-là?
C'est un personnage que les trois femmes ont développé ensemble il y a 30 ans, à l'époque où elles faisaient de l'improvisation au Manitoba. Elles ont décidé de le réanimer avec des éléments contemporains, même un peu futurs. Nathalie Labossière, qu'on connaît comme consultante et marionnettiste, joue une Jacinthe retraitée dans une époque post-pandémique.
On parlait de pandémie tout à l'heure. On entend beaucoup les gens dire « faites le point dans nos priorités ». Puis en ce moment, ben c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis je pense que Jacinthe le fait, ce ménage-là. Et on va vraiment l'entendre très clairement parler de ça. Elle va articuler ça. Là. Je pense que dans le spectacle Jacinthe, on va la voir post-pandémie. Là. On va la voir quelques années plus tard. Puis elle va avoir fait des réflexions là-dessus. Donc, on espère que ça va aider les gens à prendre un petit peu de recul ou un peu... Peut-être pas, c'est pas possible d'avoir de recul encore, je pense, mais d'avoir un peu de philosophie autour de ce qui arrive, puis de tirer son épingle du jeu un petit peu plus, au moins à ce petit moment-là.
C'était donc Nathalie Labossière. Jacinthe sera en ligne les 4, 5 et 6 février, puis ce sera présenté sur écran au Norton Art and Cultural Center, notre NAC, le 19 février. Comment est-ce qu'on va s'occuper de l'adaptation à l'écran?
Les comédiennes sont filmées chacune chez elles avec les costumes, avec un décor minimaliste, on pourrait dire. Et Marie-Ève Fontaine rajoute des effets visuels et sonores par ordinateur. Au NAC, ça va être une version préenregistrée avec des éléments contextuels des territoires du Nord-Ouest qui vont être rajoutés. Pardon. C'est une présentation d'ailleurs là-bas au NAC de l'Association franco-culturelle de Yellowknife.
Jacinthe, donc, par la troupe Lipstick Rouge, une pièce produite par le théâtre Cercle Molière, qui est basée à Saint-Boniface et qui, bonne nouvelle, sera présentée le 19 février au NAC. Denis Laure, merci beaucoup.
Bienvenue Thomas, bonjour tout le monde.
auditrices, auditeurs, je l'ai appris à peu près en même temps que vous. L'émission Bonjour là a pris fin abruptement. Baptiste Foisy, animateur de l'émission Bonjour là, est avec nous pour nous donner ses explications. Bonjour Baptiste.
Bonjour Thomas.
Qu'est-ce qui s'est passé Baptiste? Est-ce que c'était prévu?
Ça l'était et ça ne l'était pas. En toute honnêteté, on tentait là, de voir comment on pouvait réformer l'émission Bonjour là. Pour essentiellement pour me dégager du temps, parce que c'est une entreprise qui me demandait beaucoup de temps, en plus de... J'ai d'autres responsabilités au sein de Média Ténois. Je suis rédacteur des contenus qui sont diffusés sur le site web et dans le journal L'Aquilon. Alors, ça me demandait beaucoup de travail, et il fallait trouver une façon de pouvoir changer le format de l'émission. On s'en allait vers, justement, là, peut-être... arrêter l'émission, mais là, cette semaine, j'ai eu la directive de cesser immédiatement la mise en onde de cette émission-là. Je m'excuse d'ailleurs auprès de l'auditoire qui a pu vivre un deuil abrupt.
Donc, c'était trop de travail et c'est la directive, OK, c'est maintenant que ça va s'arrêter, Baptiste. Quand, par exemple, j'imagine qu'un animateur de radio à CBC... ne peut plus animer, tombe malade, par exemple, on le remplace. Bon, là, vous me voyez venir un peu, là. Ici, c'est une radio communautaire francophone au territoire du Nord-Ouest. Ça fait combien de temps que vous faites du journalisme au TNO, Baptiste?
Ah, j'ai commencé à en faire ici en 2004, donc ça fait plus ou moins 16 ans.
Ça fait plus ou moins 16 ans. Ça ressemble à quoi faire de l'information, livrer de l'information en français pour un média communautaire au territoire du Nord-Ouest?
Ben, ça demande beaucoup d'initiatives parce qu'évidemment, on a peu de directives et on a aussi un espace de liberté. Mais en même temps, évidemment, on travaille avec des ressources limitées. Ça demande beaucoup de dévotion. Ça implique de devoir travailler parfois les soirs et les fins de semaine. Ça implique aussi qu'il faut tout faire soi-même. Là, en fait, on est justement dans un âge d'or pour les médias francophones au territoire du Nord-Ouest, dans le sens que on a accès à une belle équipe, puis on est capable de faire de livrer des contenus qu'on n'était peut-être pas capable d'aller faire auparavant. Mais néanmoins, c'est évident que tous les gens qui travaillent là-dedans sont du monde qui ne compte pas leurs heures, là, nécessairement.
Vous vous donnez, on se donne, j'en fais partie, la mission d'informer à Radio Taïga, là, entre autres choses. Comment est-ce qu'on va s'acquitter de cette mission-là? Ou en d'autres mots, est-ce que c'est pas fini là, les quotidiennes à Radio Taïga, Baptiste?
Ben en fait, non, parce qu'il y a un nouveau projet de quotidienne qui est en cheminement. Ça va impliquer d'avoir des nouvelles ressources, c'est-à-dire des nouveaux artisans. Ces gens-là sont pas disponibles en ce moment, mais sachez que d'ici là, la fin mars, vous devriez avoir une nouvelle émission quotidienne. Là, évidemment, on aurait aimé garder Bonjour là jusqu'à ce moment-là, mais là, finalement, on l'a arrêté plus sec. Et là, on est comme en restructuration. Là, disons, la décision de terminer l'émission à brûle pour point a été... un peu empêcher de nous restructurer, mais sachez que, là, que dans les prochains jours, on va commencer à mettre des contenus en onde qui seront peut-être pas dans le cadre d'une émission quotidienne, mais qui seront sur une base récurrente. Alors quand vous écoutez le 103.5 FM, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir de l'information. Et bien sûr, la rétroaction du public est importante, là. Moi, ça a été un gros deuil cette semaine. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me demander de passer leur demande spéciale en ondes, ce qui est quelque chose qui me fait toujours plaisir de faire. Ben, si vous nous faites passer vos demandes spéciales, on va quand même les faire jouer. Je serai peut-être juste pas là pour les annoncer.
On vous invitera à Territoire d'Info dans les prochaines semaines. Baptiste Foisy, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Surtout, revenez-nous la semaine prochaine pour une autre émission Territoire d'Info. Je suis Thomas Etier, journaliste de l'Initiative du journalisme local. Passez une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.